Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, je recevrai Francis Letellier. On est très content de le recevoir ce matin sur Sud Radio. Et puis après, une question essentielle, une question existentielle. Est-ce qu'Interville sont les vachettes? C'est toujours Interville. On en débattra à 10h30. A tout de suite sur
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour le 10h midi. On est ensemble sur Sud Radio pour commenter l'actualité, l'actualité média entre autres. On va parler des vachettes d'Interville qui ne seront plus là l'été prochain.
Qui seront vos intervenants?
Pourquoi? Ben si, ce sera tout à l'heure le maire adjoint de Nîmes et le président de la SPA et Rémi Pernelet qui seront là. Bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Bonjour Francis Letellier. Bonjour, c'est vous notre invité aujourd'hui. Vous savez que vous nous manquez sur France 3.
C'est vrai.
Ben oui. Alors vous êtes,
Je suis toujours sur France 3.
Vous êtes toujours sur France 3. Le soir 3 nous manque.
Ah.
On vous retrouve tous les dimanches à 12h10 pour Dimanche en politique où vous faites des coups pratiquement toutes les semaines. Nous les Européens, c'est tous les dimanches à 10h45 sur France 3, sauf là pendant les vacances scolaires. Et puis on va parler également des soirées électorales. Mais c'est vrai que si, vous, le soir 3, moi, me manque. C'était une habitude. Alors évidemment, il y a France 24.
France
Je dis France Info, évidemment, mais c'est pas tout à fait pareil. Ça vous manque?
Ah ben, Soir 3, ça manque à plein de gens, visiblement. Ouais. Hein, je vous laisse responsable de vos propos. Apparemment, c'est un sentiment partagé, j'ai l'impression.
Mais vous?
Ben écoutez, moi, je ne suis pas encore recalé dans mon organisation, c'est-à-dire que je n'arrive pas à me coucher tôt. 15 ans de Soir 3.
Vous n'allez pas à France 3 quand même
Non, je ne suis pas malade à ce point. Mais 15 ans de Soir 3 où je me couchais à 2h du matin, ben, j'ai encore du mal à me recaler. Comme quoi, ça marque quand même.
Ah bah,
ça marque les esprits,
ans,
ça marque les corps
bien sûr,
aussi.
Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous regardez la télévision?
Bien sûr, je regarde la télévision.
Qu'est-ce que vous regardez?
Qu'est-ce que je regarde? Je regarde le 20h plus attentivement qu'avant. Les 20h, je zappe de l'un à l'autre. Voilà, ça je regarde.
Lequel est votre préféré?
Ça dépend des jours.
Compliqué,
Ça dépend des jours, voilà.
Des fois, TF1 est mieux que France 2?
Ça dépend des jours, ça dépend du conducteur, en fait.
Ouais. D'accord.
Ça dépend vraiment, hein, vraiment. S'il y a un dossier qui ne m'intéresse pas, je fais comme tout le monde, je zappe. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie normale. Je regarde ça, évidemment, je regarde le 19-20 chez nous, parce que c'est vraiment... Voilà, ça reste quelque chose d'important. Très important, hein, 3 millions de téléspectateurs tous les soirs, c'est beaucoup quand même. Hein. Voilà, et puis qu'est-ce que je regarde encore? Alors, je me réhabitue à regarder les téléfilms que j'avais oublié de regarder pour voir un petit peu comment c'est fait. Donc voilà, parce que je ne regardais plus.
Vous travailliez pratiquement tous les soirs. Donc vous regardez les fictions, hier soir par exemple, vous avez regardé quelque chose?
Hier soir, j'ai regardé France 2.
Ah d'accord,
Avec
Anconina, Mauvais garçon.
J'avais lu une petite critique dans Télérama que j'ai trouvé sévère par rapport à ce que j'ai vu. J'ai bien aimé finalement, parce que Télérama disait c'est lent et tout. Bah oui, mais pourquoi pas? Après tout, on peut aussi faire des choses un peu plus lentes. Et c'était formidable.
Plus ambitieuse, oui. Nous, on a reçu Richard Anconina.
Vous avez aimé aussi?
Beaucoup. Et ça a plutôt pas mal marché. C'est arrivé en deuxième position hier avec 3 163 000 téléspectateurs. Oui. 14,7% de part de marché. C'est 200 000 de plus que la semaine dernière. C'est un très bon score pour la soirée continue sur France 2 parce qu'il y avait encore eu 1 863 000 téléspectateurs pour la partie débat qui s'est terminée à 23h41. Rémi Pernelet qui me donne les chiffres est toujours très précis. Donc, ça veut dire que le débat derrière qui posait la question de savoir si on doit traîner son passé toute sa vie, qui est la question posée par le film, est-ce qu'on a droit à une seconde vie, est-ce qu'on a droit à l'oubli quand on a commis un crime ça a plutôt intéressé.
En plus, c'est pas un débat évident. Hein. Donc, 1 800 000 jusqu'à minuit moins le quart sur ça, c'est bien. Hein.
C'est plutôt bien. TF1 est quand même arrivé en tête avec 3 millions, courte tête, hein, 3 478 000 téléspectateurs pour la série médicale New Amsterdam. 100 000 de moins que la semaine dernière, ça perd un petit peu chaque semaine. Et puis France 3, plutôt un bon score pour Des Racines et Des Ailes sur la Haute-Savoie, 400 000 téléspectateurs de plus que la semaine dernière.
Valeur sûre.
C'est-à-dire qu'il y avait 2 341 000 téléspectateurs, 11,5% de part de marché, ça a plutôt pas mal marché. Vous regardez de temps en temps aussi
Des Racines et Des Ailes. Oui, je regarde de temps en temps. Tout vous dire, j'ai hésité entre Des Racines et Des Ailes et France 2. Puis je me suis dit, je vais quand même regarder une fiction ce soir.
Est-ce que c'est une, on va dire, pas une rumeur, mais est-ce que le programme programme d'avant de la diffusion de Soir 3 avait une vraie influence sur le journal ou
ah oui.
pas à l'époque?
Ah oui, 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 bien
ça
sûr.
Ça pouvait varier, ouais. il y avait des variantes. Ah bah,
je veux dire, quand on avait Capitaine Marlowe qui faisait 7 millions, 8 millions, on avait 2 millions derrière, nous autres. Ouais. Donc oui, il y avait un vrai lien entre l'un et l'autre, puisque comme le Soir 3 n'était pas à heure fixe, c'est ce qui faisait justement son sel. Ça, évidemment, ça dépendait beaucoup du programme d'avant. Oui,
évidemment. On a en ligne avec nous Patrice, qui nous appelle de Mayenne. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Qu'avez-vous regardé, vous, hier soir?
Alors, hier soir, j'ai regardé Recherche Appartement.
D'accord. C'est arrivé en quatrième position. 2 203 000 téléspectateurs, 10%, c'est pas mal pour M6. Vous êtes un fidèle de l'émission?
Oui, généralement, je regarde très souvent, mais bon, j'ai fait comme tout le monde, enfin, comme je suppose certains, j'ai fait N'attendez pas ce soir sur France 2. Ah. J'ai regardé le film et, avant.
Ah, d'accord.
Ah, vous avez regardé le matin dans la nouvelle formule.
Oui, j'ai triché un peu, j'ai fait comme tout le monde.
Ah, bah, c'est bien, c'est pas triché.
Vous avez regardé à quelle heure?
J'ai regardé ça hier matin en prenant mon petit déjeuner.
Ah, mais c'est formidable, oui, effectivement. C'est vrai, il faut rappeler que France Télévisions met en ligne
dès le matin.
Si vous avez une box, vous pouvez voir en avance les films. Bah, et vous l'avez aimé le film? Vous l'avez trouvé bien?
J'ai adoré.
Ouais.
Ah ouais, non. Ouais, non, mais c'est
avec
vrai.
Un Richard Anconina très
émouvant.
Qu'on
voit pas souvent en plus, Richard Anconina. Donc c'était bien de le retrouver. Ça avait un côté sympathique, ouais.
Qu'on a vu avec Bertrand Cantat où vous voyez, on ne peut pas reprendre quoi que ce soit sans qu'on vous remette tout ça sur le dos.
Oui, sur le passé. Vrai sujet de société. Merci Patrice de votre appel. On a en ligne avec nous Christine également. Bonjour Christine.
Bonjour Valérie, bonjour Gilles.
Bonjour Francis Le Tellier. Voilà. Vous regardiez Soir 3?
Malheureusement, c'est trop tard pour moi.
Ah oui, bah oui, c'est vrai que souvent c'était un peu tard. Oui, c'est
Moi, voilà. Je me lève à 4h le matin.
Ah oui.
Du coup, je suis décalée. Et d'ailleurs, hier au soir, le film a commencé à 21h13 au lieu de 21h05.
Ouais.
Et du coup, j'ai regardé le début du débat qui était super intéressant, mais à un moment, je lâche. Voilà, c'est dommage.
Ouais, c'est vraiment c'est trop tard, quoi. C'est
faire comme Patrice.
Il faut le regarder si vous avez une box. Regardez, de toute façon, vous regardez en replay. Mais et le film vous a plu?
Oui, il était très très bien. Ouais, pas trop lent. Il faut ça vraiment pour que ça soit profond.
Ouais.
C'était bien traité. C'était bon. Puis Richard Anconina extra comme on le connaît. Et puis rare, c'est vrai. Donc ça faisait plaisir de le revoir. Vraiment, c'était très très bien. J'ai pas lâché. Le sujet était intéressant et voilà, il y avait de la matière.
Ben super, merci beaucoup Christine de nous avoir appelé, merci à vous. Donc c'est visiblement bravo France 2 et bravo à Richard Anconina qui était un peu inquiet d'ailleurs lundi quand il est venu, pas peur, mais oui, il se demandait si le sujet allait toucher les gens, et c'est vrai qu'il est...
Je crois qu'il a, un crédit sympathique, comme on dit aussi en plus, je pense que Anconina a bien porté le film.
Est-ce qu'il y a des choses que vous regardez qui seraient inavouables ou pas?
Ah si c'est inavouable, je vais pas vous l'avouer.
Bah si, justement. Des choses qui pourraient nous étonner.
Que je regarde.
Genre les Marseillais.
Ah non, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Non, en revanche, je me refais Friends
C'est pas inavouable.
Si, à mon âge, c'est inavouable de regarder Friends. Mais c'est rigolo parce que quand vous retrouvez les beepers, vous savez, dans la poche, parce qu'il n'y avait pas les téléphones portables, des choses comme ça, ou alors ils ont des téléphones à fil dans l'appartement, chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Ouais. C'est là qu'on voit quand même que c'est un petit peu daté quand même. Quoi. Mais c'est très sympa. Moi, j'adore retrouver Ross, Rachel, Joey, surtout, j'adore Joey.
C'est vrai?
Il me fait rire.
L'apprenti comédien.
Sur les plateformes, Netflix, OCS et autres, c'est pas trop votre truc?
D'abord parce que...
Vous avez de la chance parce que ça prend un temps de dingue et il y a des trucs formidables.
C'est pour ça. Justement, ça prend trop de temps. On est déjà capté, dit-on, par les réseaux sociaux. Si en plus on est capté par les plateformes, il reste quoi pour la vie? Donc c'est peut-être pour ça que je ne suis pas tombé dans ce piège-là. Voilà.
Gardez un petit peu de temps. On va passer au zapping de Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Comme dirait Francis Le Tellier, c'est l'info de la nuit, la disparition de Kirk Douglas à 103 ans. Une légende s'en va. L'acteur parfaitement francophone était interviewé en 89 sur la télévision suisse.
Kirk Douglas, bonsoir, merci d'être devant nos caméras. Quelle impression tout d'abord de revoir Paris, qui est plein de souvenirs pour vous?
Oh oui, c'est toujours un grand plaisir pour moi de retourner à Paris, la scène de crime parce que c'était ici que j'ai fait la connaissance de ma femme il y a des années.
Anne.
Eh oui.
La scène de crime. Ils ne lâcheront rien. La France insoumise, qui a déposé, vous savez, 19 000 amendements contre la loi retraite, afin de faire de l'obstruction parlementaire, et ben pour Clémentine Autain de la France insoumise, ce n'est que le début.
C'est notre façon de tenir notre rôle de parlementaire et donc d'opposition à ce projet.
C'est le seul moyen que vous avez trouvé ici à l'Assemblée nationale.
Vous avez d'autres idées peut-être?
Non, non, mais je vous pose la question.
Bah écoutez, oui, c'est le moyen qu'on a trouvé. Il y en aura d'autres. Hein. Vous le savez que par la suite, motion de censure, motion référendaire, recours au Conseil constitutionnel sont aussi des leviers qu'on va pouvoir utiliser. Donc nous, on va prendre tout ce qu'on peut pour essayer de faire entendre notre voix et d'empêcher le gouvernement d'aller jusqu'au bout de cette contre-réforme.
Valérie Francis, vous n'êtes pas sans savoir que le coronavirus fait rage en Chine. Et bah où il était notre ambassadeur français ?
En vacances.
Absolument, quotidien mener l'enquête.
Au moment où il fallait gérer le rapatriement des Français, on apprend dans la presse que notre ambassadeur, il était où ? Il n'était pas sur place, il était en vacances en Bretagne. Ça fait mauvais genre, pas très sérieux. Et on a posé la question à son homologue chinois. Écoute sa réponse.
J'ai reporté mes vacances.
Voilà, lui, il a reporté ses vacances. Valérie, on avait reçu ici Sébastien Bouey, qui avait été venu parler de son association Colosse au pied d'argile, qui lutte contre la pédophilie dans les milieux sportifs. Il avait d'ailleurs fait un documentaire diffusé sur France 2. Et hier, France 5 a passé un extrait dans lequel il s'adresse à des enfants d'un club de rugby.
La douche, qui a le droit, du moment que vous savez vous doucher, qui a le droit de toucher votre corps ?
Personne ! C'est intime !
C'est intime, t'as dit le mot. Qui d'autre a le droit de toucher votre corps ?
C'est comme
le docteur.
Le docteur.
Moi, j'ai été victime aussi d'un méchant quand j'étais plus petit. Donc c'est pour vous apprendre. Oui, comme quoi, tu vois, même si on est costaud, les méchants, ils peuvent s'attaquer à nous.
Quel est le carton de TFX actuellement, Valérie ? C'est la JLC Family. Alors la JLC Family, c'est Jazz de la télé-réalité qui vient d'accoucher. Et on suit son accouchement. Et sur W9, on a suivi Manu et Julien dans une série qui s'appelle Le bébé du fraté. Coup de gueule de Mathieu Delormeau sur cette nouvelle télé-réalité encore plus voyeuriste.
Les stars de télé-réalité aujourd'hui, la grande, les Marseillais, les Ch'tis, tout ça, gagnent entre 50 et 150 000 euros par mois avec leur
poste. C'est énorme.
Jusque-là, pas de problème. Le problème, c'est que toutes, et si j'en veux aussi un W9 un petit peu, toutes maintenant ont des enfants. Et vous regardez, leurs enfants, parfois même avant de naître, ont déjà un compte Instagram. Et il y a des bébés, vous voyez le bébé, et quand vous cliquez sur le bébé, il y a toutes les marques. Mixa, Tata, Tata, Tata. Le bébé à lui-même va apporter 30 à 40 000 euros par mois. Ce qui me choque, c'est qu'on ne donne pas le choix à ce bébé de devenir connu ou pas.
C'est compliqué de lui demander son avis, mais c'est vrai que la télévision va de plus en plus loin.
Puis dans quelques années, quand il se verra, il se dira « Mais attendez, on m'a fait faire des choses que je ne voulais pas faire. »
Et vous avez entendu les chiffres. Hein. Entre 50 000 et 150 000, la télé-réalité, vous auriez dû faire ça, Francis.
Peut-être, mais attendez.
La vie n'est pas finie. En tout cas, Anne nous dit que Soir 3 lui manque également et qu'elle n'est pas passée sur France Info TV, comme sûrement beaucoup de gens, parce que c'était une habitude, vous l'avez dit. On vous en parle dans la rue, les gens qui...
Oui, tout à fait, comme vous ici.
Ouais.
Exactement comme vous ici.
Bah,
40 ans d'histoire.
Absolument.
Quand vous m'en parlez là, tout le monde en parle, effectivement. Moi, je suis passé à autre chose, évidemment, parce que maintenant, comme vous le disiez, j'ai d'autres projets, et heureusement, avec France 3. Donc, évidemment, je ne vais pas vous dire non, alors que c'est vrai.
Mais sans langue de bois, vous avez compris la décision de la chaîne.
Je ne suis pas langue de bois, là.
Non, je vous pose la question. Sans langue de bois, vous comprenez la décision de la chaîne ou vous ne la comprenez pas ?
De toute façon, aujourd'hui, elle est faite, la décision. Et puis moi, quand vous me parlez
de la langue de bois.
Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous me parlez de ça, ça me paraît déjà loin. Parce que vous savez comment c'est, les journalistes sont un peu... Voilà, on passe vite à autre chose. Et heureusement que je suis passé à autre chose. Sinon, je serais en train de radoter un petit peu, là. Et je n'ai pas envie de radoter.
Ouais.
Donc, du coup, je suis passé à autre chose, quoi.
Vous êtes passé à autre chose, à Dimanche en politique, tous les dimanches sur France 3, à midi 10. Vous avez également cette émission Nous, les Européens, à 10h45, toujours sur France 3, le dimanche. Et puis, vous serez aux commandes des soirées électorales avec Carole Gessler. Dimanche en politique, vous avez des poids lourds de la politique chaque semaine. Vous avez reçu le ministre de l'Intérieur, Ségolène Royal, qui a fait le buzz énorme, puisque vous l'avez interrogé sur Mila. Oui, je vous dis tout, il y a un auditeur qui nous dit que vous êtes mainstream et consensuel. Non, ce n'est pas vrai, puisque vous avez posé la question et vous êtes plutôt pugnace.
Alors,
dans vos interviews.
Pugnace, ça dépend. Ouais. Je pose les questions, mais je ne les pose pas avec agressivité. C'est-à-dire, je pose la question. Par exemple, pour Ségolène Royal, pour tout le buzz que ça a fait autour de Je suis Mila. Elle dit dans un premier temps que attention à ce genre de propos sur les réseaux sociaux, etc. Et je la relance en disant donc vous ne signeriez pas avec le hashtag je suis Mila. Et là, elle continue quoi. Mais je pose simplement la question, comme vous Valérie ou Gilles, quand vous me parlez d'autre chose, que voilà, vous me posez la question et puis après il y a la réponse qui arrive. Voilà, ben la réponse c'est Ségolène Royal, c'est elle qui a fait plus de buzz que ma question elle-même. Oui. Donc je suis pas mainstream ou arrogant.
Mais c'est la question qui l'a amenée en posant cette bonne question. Vous êtes Mila ou vous n'êtes pas Mila, qui a amené cette réponse qui a mis en lumière la position.
Après, vous savez ce que c'est que le direct, voilà, Valérie. C'est, on a le moment où on pose la question. J'aurais très bien pu la rater aussi à 10 secondes près, la question. Vous voyez, c'est vraiment... Le direct, c'est ça aussi. Hein. Le direct, c'est une espèce de chose qui est presque animale, j'allais dire. Vous avez le réflexe tout de suite ou vous ne l'avez pas.
Vous les voyez en sortant du plateau, vous?
Toujours.
Et alors, est-ce qu'elle s'est aperçue qu'elle avait dit quelque chose, qu'elle est buzzée ou pas? Elle est revenue en...
Non, pas spécialement. Non, elle n'a pas eu l'impression. Nous, en sortant du plateau, on lui a dit à Ségolène Royal, ce que vous avez dit là sur l'affaire Mila, ça va peut-être faire du bruit, mais ce n'était pas encore parti. Ouais. C'est une heure après, quand ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux, que là, on s'est dit, là, effectivement, ça devient un vrai phénomène de société, puis un événement politique. Mais sur le coup, oui, elle avait vu qu'elle avait tapé fort, mais que, bon, après tout, c'était une opinion comme une autre. Voilà.
C'est un animal politique, elle sait exactement ce qu'elle dit.
Et ce qui est intéressant, c'est le sondage qui a été publié hier,
qui dit que
50% des Français, grosso modo, disent « je suis Mila » et 50% qui disent « je ne suis pas Mila ». Donc finalement, Ségolène Royal, quand elle dit ça, elle sait aussi, instinctivement, qu'elle représente la moitié de la population française. Ou disons qu'elle peut être le porte-voix de 50% des Français, ce qui est beaucoup.
Ce qui est plutôt pour une politique
qui veut être président de la République.
Qu'est-ce que vous avez le sentiment que la vie politique... Enfin, c'est une question, je pose la question en connaissant la réponse, mais on a entendu tout à l'heure l'extrait dans le zapping de c'était Clémentine Autain. Cette violence en politique, vous la ressentez? Vous la ressentez pas?
Non, parce que je trouve qu'on est un peu timoré là-dessus.
Ouais.
Prenez un exemple. Regardez ce qui s'est passé au Congrès américain. Quand vous avez Nancy Pelosi, qui est présidente démocrate, qui déchire dans le dos de Donald Trump, le discours de Donald Trump. Eh bien alors, imaginez ça en France. On met, Jean-Luc Mélenchon qui déchire le discours du président de l'Assemblée nationale, ou du président de la République. Ou bien, quelqu'un du DLR, des Républicains, on va prendre Aurélien Pradier, par exemple, qui ferait la même chose. Les cris d'orfraie que ça ferait en France.
Ouais. Alors aux États-Unis, ça a quand même...
Un peu, mais en même temps, je trouve qu'on est en train d'aseptiser le débat politique, alors que les coups d'éclat, les coups de gueule, ont toujours fait partie du débat politique en France.
Ouais.
Il n'y a pas d'attaque physique, heureusement. Il n'y a pas d'assassinat, heureusement. Ça s'est même vu dans le passé, en France, en politique.
Oui.
On n'en est pas là. Donc, attention, quoi. Attention. Quand j'entends radicalisation...
Vous trouvez que Macron n'est pas du tout attaqué?
Quand j'entends radicalisation du discours politique, déjà radicalisation, j'aime pas trop, parce que vous voyez à quoi ça fait allusion. Extrémisation du discours politique. Doucement. Ouais. Tout ça, ça fait partie aussi de la culture française, de la culture politique française. Alors effectivement, il ne faut peut-être pas que ça aille trop loin. Que le président de la République soit attaqué, bien sûr qu'il est attaqué. Mais comme tous les présidents de la République, vous vous souvenez de François Hollande?
Oui, mais ce matin, il y a un article, je ne sais pas si vous l'avez vu, et on va en parler, nous, à 11h, dans le Parisien, où on parle de cette défiance et de cette violence à l'égard du président. Et il y a une phrase, on dit, Hollande, on disait, il est nul, il est moche. Et Macron...
Et Nicolas Sarkozy.
Et Macron, mais c'est vrai que la position aujourd'hui de la France insoumise, elle est de la gauche et de plus en plus radicale quand même, non?
Souvenez-vous simplement de Nicolas Sarkozy ou François Hollande, comment ils étaient traités de la même façon. C'était pas la France insoumise, c'était la droite quand c'était la gauche qui était au pouvoir, et c'était la gauche quand c'était la droite qui était au pouvoir. Mais les mots étaient violents aussi. Vous vous souvenez pas?
Oui, si, mais ils avaient du répondant. Il y avait quelque chose de différent, en fait.
Ah, là, vous êtes en train d'introduire autre chose. Il y avait du répondant.
Là, il y a peut-être moins de répondants.
Quel
rapport vous avez avec les politiques quand ils arrivent avant l'émission? Vous leur parlez ou...
Oui, toujours.
Toujours. Mais certains ne voulaient pas les voir.
Je leur parle toujours, bien entendu, c'est normal.
Ouais.
Vous les avez appelés dans la semaine? Vous avez dîné, déjeuné avec
eux? Non, jamais. Ça, par contre, jamais. Parce que d'abord, je ne suis pas un journaliste politique, donc je suis un journaliste qui fait de la politique, mais je ne suis pas un journaliste politique, donc ça, je ne le fais pas.
Quelle différence vous faites entre un journaliste politique et un journaliste qui fait de la politique?
Un journaliste politique, il est dans un service politique. Il doit avoir des informations dont je me sers d'ailleurs pour faire mes interviews, Et donc, il doit rencontrer des politiques, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat et qu'on sait où vont telle ou telle chose, quelle sera la prochaine réforme, quelle sera la prochaine initiative politique. Donc, eux, c'est leur travail. Moi, mon travail, c'est de mener une interview politique et donc de prendre de la distance, mais en me nourrissant de leurs informations. Vous voyez, mais c'est dans ce sens-là que ça marche.
Vous allez animer les soirées électorales
15 et 22 mars, je redis, parce qu'il faut que les gens votent le 15 et 22 mars. Au-delà de regarder la télé.
Ça, c'est quoi ? C'est quelque chose de très excitant, de présenter génial. Une soirée électorale.
C'est génial, parce que tout se passe en direct. Et puis surtout, c'est la soirée France 3 par excellence.
Parce que
les municipales, voilà.
Bien sûr.
C'est-à-dire que dès 20h, toutes les régions vont donner des estimations, donc quasiment les résultats, j'allais dire, dans plein de villes en France, des dizaines de villes en France. Et ça, il n'y a que France 3 qui fera ça. C'est énorme. Pour France 3, c'est l'élection France 3. Et les élections qui viennent vont être les élections France 3. Les départementales, les régionales, tout ça, c'est des élections
donc
France 3.
Donc à 20h, on aura...
Une photographie, oui.
Oui, c'est-à-dire que par exemple, les téléspectateurs d'Île de France... Alors 20h, c'est peut-être un peu trop tôt pour Paris.
Pour Paris, oui.
Pour Paris,
en tout
ce
cas,
sera
en région,
trop tôt.
Vous aurez déjà un certain nombre de résultats.
Je veux dire, les gens de Rennes, de Strasbourg, de Bordeaux auront des indications.
On vous retrouve, Francis Letellier, donc tous les dimanches à 12h10 pour Dimanche en politique. Nous, les Européens, ça s'arrête pendant les vacances scolaires, mais ça revient...
10h45.
10h45, ça va revenir au mois de mars, c'est ça ?
Le 15 mars.
Le 15 mars. Et puis, les soirées électorales, évidemment, à ne pas manquer. On vous remercie d'être venu ce matin sur Sud Radio, Francis Letellier. On est ravis de vous avoir à chaque fois. Et puis, on va, dans un instant, parler des vachettes. Pour ou contre les vachettes dans Interville, vous ?
Moi, je suis pour le ni oui ni non pour les jeux de 20h. Il faut refaire les jeux de 20h. Non, mais si, je peux vous répondre.
Alors,
Moi, je suis plutôt contre les vachettes.
Voilà. Bon. Très bien. On va en débattre avec le président de la SPA et l'adjoint au maire de Nîmes, de la ville de Nîmes, et Rémi Pernelet. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, le débat porte sur les vachettes. L'annonce du retour d'Interville l'été prochain a réjoui les nostalgiques de cette émission. Mais pour certains, cette annonce comportait une surprise de taille. Il n'y aura pas de vachettes dans la nouvelle version produite par Nagui. Interville sans les vachettes, est-ce toujours Interville ? Est-ce qu'au contraire, nous avons changé d'époque ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons prendre en compte la souffrance animale ? On en parle ce matin avec Franck Proust. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes premier adjoint au maire de Nîmes. Vous êtes par ailleurs député européen LR. Nîmes est membre de l'Union des villes taurines de France. Et l'Union des villes taurines de France appelle à boycotter l'émission, en tout cas à ne pas recevoir l'émission dans ses arènes. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Jacques-Charles Fonbonne, bonjour. Vous êtes président de la SPA. On va voir quelle est la position de la SPA sur cette question. Et Rémi Pernelet, journaliste média à Sud Radio. On va peut-être commencer avec vous, Rémi, et un petit rappel de ce qu'a été Interville.
Bah oui, Valérie, tout le monde connaît Interville. C'est sans doute le jeu le plus célèbre de la télévision française et même étrangère. Il a été créé en 1962 par Guy Lux et Claude Savary, qui se sont inspirés d'une émission italienne, Campanile Sera. Interville a été diffusé pendant les étés de 1962 à 1973. Alors à la RTF et puis ensuite à l'ORTF. Oui, c'était encore ça à l'époque. Et les épreuves mythiques sont nées à ce moment-là. Les stars s'appelaient Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier, mais aussi les célèbres vachettes landaises qui venaient perturber les concurrents en pleine épreuve et mettre de l'imprévu dans les jeux. Et l'imprévu, c'est bien ce qui fait la force du direct. Interville s'est arrêté 12 ans entre 1973 et 1985 avant de revenir sur FR3, toujours présenté par Guy Lux, toujours avec des vachettes et toujours avec des audiences incroyables. Pour la première, le 10 juillet 1985, 14 millions de téléspectateurs.
Ouais, c'était une autre époque, il y avait
match,
moins de chaînes.
Une autre époque, moins de chaînes, mais des cartons incroyables.
Des cartons, ouais.
Interville passe sur TF1 en 1986, les audiences restent très élevées, entre 7 et 8 millions. Jusqu'en 1997, l'année de la fameuse polémique des trois doigts d'Olivier Chiabodo.
Chiabodo
qui aurait indiqué la bonne réponse au concurrent du Puy du Fou. Des soupçons de tricherie de la production qui n'empêchent pas l'émission de revenir à l'été 1998. Puis en 1999, dans un format différent, c'était un match international entre Paris et Pékin. Là, la formule ne convainc pas, l'émission s'arrête. Il faut attendre 2004 pour qu'elle revienne sur France 2, présentée par Nagui déjà, toujours avec des vachettes, mais dans une version quotidienne en Access Prime Time et enregistrée à Europa Park en Allemagne. On s'est vraiment éloigné de la formule originale du direct événementiel. L'audience est aux alentours de 4 millions de téléspectateurs avant de baisser peu à peu et de passer sous la barre des 3 millions en 2008, et l'émission est arrêtée en 2009. Et le retour sur une grande chaîne, c'est la rumeur récurrente. Hein. Mm. À chaque rentrée, depuis près de 10 ans, ben, voilà, on est en train d'en parler. Et c'est vrai que même Cyril Hanouna a évoqué cette question de avec ou sans vachette. Il s'est prononcé très clairement. Pourtant, il est dans la même société de production.
Contre les vachettes. Pour les vachettes.
Oui, Interville sans les vachettes, ce n'est plus Interville. C'est une très mauvaise idée. Pourtant... Il est dans la même société de production que Nagui qui veut reprendre Interville, comme quoi les vachettes ne mettent pas du piment que dans un jeu télé.
Absolument. Alors Franck Proust, racontez-nous un petit peu cette colère des villes taurines.
Bon, c'est va au-delà de la colère des villes taurines. Je crois qu'il faut, il faut savoir raison garder. Je veux dire, il y a une marque déposée, Interville, ça marche avec les vachettes, ou alors il ne faut pas l'appeler Interville. Je veux dire, d'ailleurs, en 2004, vous venez de le rappeler, si Nagui s'est relancé parce qu'il était en difficulté, c'est grâce aussi à cette émission. Vous savez, chez nous, la culture du taureau, c'est les vaches landaises. À ce moment-là, on peut aussi aller dire que les taureaux piscines, l'été, qui remplissent et qui font le bonheur de tous nos touristes qui arrivent dans nos régions, on devrait arrêter. Il ne faut pas tout confondre. Où est la problématique du bien-être animal sur les vachettes d'Interville qui étaient sacrées comme des reines? Moi, j'ai vu des émissions où, en fait, il y avait eu des reportages, comment on les bichonnait, comment elles étaient adulées, protégées. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus les vachettes qui donnent des coups aux êtres humains que le contraire. Non, je crois franchement que là, on est dans un débat, on est tombé sur une caricature. Bien sûr, le bien-être animal, je peux comprendre, effectivement, dans certains domaines. Et moi, vous savez, je suis premier adjoint de la ville de Nîmes. On a souvent des débats sur la corrida ou autre, mais franchement, là... je trouve ça vraiment tellement gros. Mais encore une fois, je veux dire, on peut l'appeler jeu sans frontières, ce que vous voulez, mais Interville sans les vachettes, c'est comme un match de foot sans ballon.
Alors, Nagui dit, pendant 2 ans, j'ai animé Interville, et pendant 2 ans, j'ai vu ce qui se passait avec ces animaux. Je n'ai pas envie de reproduire cela, et je ne suis pas le seul. Simone Garnier, qui a été interviewée par nos confrères de France Bleu, elle dit qu'elle a un souvenir... très bon plutôt. Les vachettes n'étaient pas maltraitées du tout. Elles ont toujours été respectées. Les responsables les soignaient très bien. On ne peut pas dire que les vachettes ont souffert. Par contre, elles pouvaient maltraiter les concurrents. C'est ce que vous dites. La position de la SPA, c'est quoi, Jacques-Charles Fonbonne?
Vous ne vous étonnerez pas de mes propos pour vous dire que ce n'est pas la même chose.
Oui.
Au-delà d'Interville, au-delà d'une émission de télé... On est sur un portage, sur une considération de l'animal qui est un animal spectacle, qui est un animal objet. La vachette d'Interville, c'est la porte d'entrée vers toutes les activités taurines, c'est-à-dire vers la corrida, c'est-à-dire vers des faits, vers des pratiques, c'est pas moi qui le dis, c'est le code civil, et c'est surtout le code pénal, qui sont des sévices graves ou qui sont de la maltraitance, c'est-à-dire des choses qui, partout sur l'ensemble du territoire, sont interdites par la loi, sont punies par le tribunal correctionnel, par des peines d'emprisonnement, par des amendes, et il y a... une toute petite exception pour les 11 villes taurines, parce qu'il n'y a plus que 11 villes, dans les 11 départements taurins qui pratiquent donc ces activités, et que toutes les associations de protection animale essayent de faire modifier, essayent de faire abolir, parce que, oui, effectivement, le taureau piscine, ça amuse les gens. Ça les amusait il y a 50 ans. Moi, je regardais effectivement Interville quand j'étais petit. Je suis plus vieux que vous, d'ailleurs. Bon, 1960, 1970... Dieu merci, les mentalités changent. On est sur un vieux dispositif juridique qui permet ça justement sur une petite aire géographique très restreinte et que l'on veut faire abolir.
Oui.
Enfin, bon, attendez, le taureau piscine, c'est partout, ça remplit les courses de vaches landaises. La Fédération française de course camarguaise est reconnue par le ministère des Sports. Je ne vais pas rentrer dans le débat de la corrida parce que l'amalgame entre la tauromachie et les vaches landaises, c'est vraiment une caricature et un raccourci. Je rappelle simplement que la corrida est inscrite au patrimoine universel de l'UNESCO.
Non, c'est faux.
Mais peu importe. Si Nicolas Sarkozy qui l'avait fait inscrire.
Non, c'est faux.
Je ne veux pas rentrer, monsieur le président. Je ne veux pas rentrer dans le débat de la tauromachie. Nous sommes là sur les vachettes d'Interville. Je dis simplement qu'il y a tromperie sur la marchandise. Que Nagui fasse une émission pour faire de l'audimat, pour faire marcher sa maison de production, c'est son droit le plus absolu. Je peux le comprendre. Mais qu'on appelle cette émission-là Interville, je dis qu'il y a escroquerie sur la marchandise, parce que Interville sans des vachettes, c'est comme un match de football sans ballon. Et encore une fois, démontrez-moi, vous vous dites c'est la porte d'entrée à la tauromachie, ça n'a rien à voir. Alors dites la même chose aux courses langlaises, dites la même chose aux courses camarguaises.
Oui.
Le public des courses camarguaises ne vient pas au corrida. C'est un public complètement différent.
Ouais,
et en plus, le taureau-piscine et les vachettes d'Interville... Enfin, franchement, dites-moi où est-ce qu'elle souffre. Enfin,
alors, attendez, juste Interville, c'est match entre deux villes. C'est pas,
Oui,
c'est
mais,
pas des
vachettes. Mais il y avait quand même un concept derrière.
Mais il n'y avait pas que les vachettes dedans.
Oui, enfin, on a tous regardé, c'était le moment que tout le monde attendait.
Rémi.
Non, juste pour rappeler, c'est vrai qu'il y avait les vachettes depuis l'origine et que même Nagui a présenté des premières émissions dans lesquelles il y avait des vachettes. Alors, c'est vrai que depuis, il est devenu, je crois, végétarien assez, assez affirmé, militant de la cause animale. C'est son droit, tout à fait. Mais c'est vrai qu'on se dit, et puis on a quand même interrogé beaucoup de personnes, on a regardé les émissions, on ne voit pas où est la maltraitance animale dans un...
Alors, la maltraitance animale, c'est-à-dire que c'est le principe du droit, c'est-à-dire que, M. Proust disait à l'instant, c'est comme un match de foot sans ballon. On dit exactement la même chose, sauf que le ballon, c'est effectivement un objet, et que la vachette, que le taureau, quelle que soit l'activité humaine à laquelle on l'a fait participer... est un être vivant.
Mais monsieur le président, alors expliquez-moi, les courses équestres par exemple, les courses hippiques, qu'est-ce que vous dites ?
Ah mais le cheval est un animal qui a été domestiqué par
donc
l'homme.
Donc on abandonne les courses hippiques aussi
non,
alors ?
Non, pas du tout.
Parce que alors, là il ne souffre pas, non ? Tout
non,
va bien.
L'animal ne souffre pas parce que c'est un animal domestique. Et est-ce que l'animal ne souffrirait pas si on jetait le cheval dans la piscine ? Je vous pose la question.
Parce que quand il fait du saut d'obstacles, il ne tombe pas dans
toutes les épreuves de cross.
Non, pas du tout, c'est un animal.
L'entraînement est dur.
Mais ne mélangeons pas tout.
Mais c'est une filière. Mais c'est pareil, les courses camarguaises, c'est pareil
tout.
Alors.
Non.
C'est des traditions, c'est une identité, c'est une culture, on aseptise notre identité, notre patrimoine.
Non, alors...
Les vaches landaises, c'est pareil,
je suis
c'est pas
désolé,
bien.
Mais les activités taurines sont des activités qui sont une tradition d'une petite centaine d'années. Ce sont des traditions qui sont tout à fait récentes. Je pense que les traditions, comme vous le disiez tout à l'heure, sont faites effectivement pour évoluer, qu'on peut, comme c'était le cas de Nagui, effectivement, avoir
un point de vue qui a évolué.
Des émissions de vaches landaises comme Guilux il y a 40 ou 50 ans et évolué.
Oui. Est-ce que l'époque n'a pas changé, effectivement ? Même, mais alors là, pour le coup, donc cette interview de Simone Garnier où elle dit « Nous ne pouvons peut-être pas reprendre une émission telle qu'elle était. On ne peut pas refaire une chose qui a marché il y a 50 ans. Les temps ont changé, le public aussi. La jeunesse n'est plus tout à fait la même. Il y aura peut-être d'autres jeux. Bah, » Est-ce que l'époque a changé ?
À ce moment-là, on change de nom. Je veux dire, vous mettez la nouvelle technologie... on fait des concours avec des jeux vidéo. Bien sûr que l'époque a changé, mais je veux dire, dire que de faire Interville, encore une fois, d'abord, un, qu'on me démontre que ces animaux souffrent, moi je ne comprends pas, parce que pour assister, je vous dis, pour moi c'est comme le taureau-piscine, c'est les vachettes, on les protège, ben, c'est plutôt les êtres humains qui
sont musqués. Taureau-piscine, vous pouvez dire ce que c'est pour ceux qui ne sont pas du sud-ouest, même si nous,
principaux. Taureau-piscine, vous faites un carré en plastique avec 50 cm d'eau, le jeu consiste à se mettre sur le bord de la piscine, et celui qui gagne est celui qui reste le plus longtemps possible. C'était un peu le principe aussi d'Interville. Toutes les vachettes renversent les gens, il y en a un qui reste, celui qui reste à gagner.
On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant pour parler donc de ces vachettes. Doivent-elles revenir dans Interville ?
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, Interville sans les vachettes, est-ce vraiment Interville ? On en parle avec Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, Franck Proust, premier adjoint au maire de Nîmes, et Rémi Pernelet, journaliste média. Rémi, vous aviez une question.
Je comprends un peu qu'on ait un raisonnement, mais la souffrance animale ne me paraît pas non plus démontrée. Puis alors moi, ce qui me gêne, c'est que maintenant, quelle que soit la situation, les émissions de télévision, on ne peut plus rien faire en fait. C'est-à-dire que c'est presque plus philosophique que vraiment sur...
Se préoccuper du bien-être animal.
Oui, alors c'est pour une raison philosophique. L'animal ne doit pas être un objet. Et donc, bon, une émission qui, me semble-t-il, ne faisait pas de mal à personne, à grand monde, et séduisait un grand, grand, grand public très populaire, et on en manque d'émissions populaires. Ben voilà,
Le fait de retirer les vachettes rendra l'émission moins populaire ? Je vous pose la question. Il y avait des courses, des gens qui couraient sur des tapis roulants.
Mais
il
y a peut-être un concept à trouver.
Oui.
Mais à ce moment-là, et encore une fois, il ne faut pas tromper les gens. Quand vous allumez votre télévision, Interville, ça rappelle aux grands-parents, aux parents, même à ma génération, d'autres choses. Mais il faut l'appeler autre chose, je ne sais pas.
Mais ce matin, Gilles Ganzen me précisait une chose sur les plateaux de télévision. Paraît-il, il faut qu'il y ait toujours un représentant de la SPA ou un vétérinaire.
Quand, alors, représentant de la SPA, non, mais un vétérinaire, oui. Mais on dit la même chose. C'est effectivement ce qu'a dit M. Proust à l'instant. C'est le spectacle de nos parents et de nos grands-parents. Tout a changé depuis le temps de nos parents et de nos grands-parents. Le rapport aux êtres humains ensemble.
Vous ne trouvez pas qu'on va un peu loin dans la censure et que brusquement, là maintenant,
c'est ce vieux débat.
C'est plus de l'amusement qu'autre chose.
Une atteinte à la liberté, c'est une atteinte. On a le droit de faire ce qu'on veut, d'éduquer ses enfants comme on veut. Non, il y a une véritable évolution. Je pense que les premières lois de protection animale ont généré exactement les mêmes débats, la protection sur les chevaux, les différentes lois qui ont marqué cette évolution depuis un siècle. Je pense que c'est une évolution qui est vraiment en marche. Vous êtes élu de Nîmes. Savez-vous combien il y a de personnes à Nîmes? C'est un sondage IFOP il y a 2 ans, février 2018, qui sont opposées aux activités taurines, quelles qu'elles soient. 54%.
Oui, enfin bon,
il y a 91% des jeunes entre 18 et 24 ans.
Il
y a 91% des jeunes entre 18 et 24 ans qui sont contre les activités tauromachiques. Pernod Ricard, qui était le principal,
sponsor,
merci, qui était le principal sponsor des activités taurines, s'est retiré. Je ne pense pas que Pernod Ricard suive uniquement la mode. Ça veut dire que la tauromachie, ça veut dire que les activités taurines sont dans les cordes. Ça veut dire qu'ils vont manquer des subventions. L'État français paye encore une partie avec nos impôts de l'activité taurine. On est, je pense, sur une pente descendante. Moi, je suis président de l'SPA pour encore 2 ans et demi. Je pense que je verrai, en termes d'activité taurine, la fin de la corrida ou au moins l'interdiction aux mineurs. Et soyons sérieux, c'est un spectacle. A-t-on le droit d'utiliser une vachette? Je suis d'accord que ce ne sont que des actes de maltraitance et que ce n'est pas le pire en matière de souffrance animale. On est tout à fait d'accord autour de cette table.
Vous pensez qu'il y a des actes de maltraitance pendant l'interville?
C'est-à-dire que vous avez affaire à un herbivore, que vous enfermez. Vous avez un chien?
Oui.
Votre chien est autour d'une piscine et il y a cette espèce de jeu où le dernier qui reste, comme dit Monsieur Proust, a gagné. Et c'est votre chien qui a les caméras, qui a les sunlight, qui a du public autour et qui est complètement affolé.
Les chiens, ça peut jouer aussi.
Les chiens en bord d'une piscine, ouais.
On est d'accord, c'est un carnivore. Enfants, mais c'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. C'est un animal domestique, ça n'est pas un bovidé qui est dans une situation qui est complètement contraire à son biotope.
Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Proust, donc, avec... Il y a eu des demandes de la part de la production pour venir dans les villes du Sud, parce que ce sont des villes...
Bien sûr, et alors, je vais vous dire à tel point, c'est assez marrant, le producteur, pas Monsieur Panagui, mais le producteur a appelé la ville de Nîmes, mais lui a dit que non, mais écoutez, c'est un faux débat, bien sûr qu'il y aura des vachettes, parce qu'un Interville sans vachettes, ça ne peut pas exister. Jusqu'aux déclarations récentes de Nagui, qui a bien stipulé qu'il n'y aurait pas de vachette. Et à ce moment-là, je ne vois aucun intérêt de faire ce genre de choses dans nos arènes.
Il vous a un peu provoqué, puisqu'il a dit « Je tremble, ces 50 maires ou participants de cette association, ce ne sont pas les habitants de la ville, il y a un truc qui s'appelle la télécommande, ils pourront regarder ou pas. » Il vous rentre un peu dedans,
Ça oui, mais après, vous allez accepter d'accueillir l'émission ou pas dans la ville?
A priori, non. Je veux dire, pour nous, il n'y a aucun intérêt, parce que contrairement à ce que dit le président, vous savez, moi je regarde les choses un peu de... Ça fait 30 ans que je suis élu à Nîmes. Sur 6 candidats au municipal, il n'y en a pas un qui est contre la tauromachie. Encore une fois, je ne veux pas que vous veniez sur le terrain de la tauromachie. Ça n'a rien à voir. Une vachette, c'est une vachette. Vous mélangez la course camarguaise, les vachettes, les tauropiscines, les vachettes d'Interville, les courses landaises. Attendez, c'est des filières complètement différentes. C'est des choses complètement différentes, une identité, une culture. Et encore une fois, ce sont des publics complètement différents. Ne confondons pas les choses. Mais personne, à ce jour, m'a prouvé par A plus B que les vachettes d'Interville étaient maltraitées, c'est tout. Mais après, on peut toujours caricaturer, aller jusqu'au bout. À force de tout aseptiser, perdons notre identité, notre culture, autre. Mais encore une fois, moi, ça ne me dérange pas qu'on fasse un nouveau jeu. Les jeux, on le voit, les jeux télévisés ont évolué. Mais encore une fois, n'appelons pas Interville, eh bien, c'est un concept global, et la vachette fait partie de ce concept.
Moi, je suis
on
pas
peut interdire Interville. Hein.
Je ne suis pas producteur de l'émission. Ouais, ça peut s'appeler Jacques Interville sans vachette, ça me va très bien. À partir du moment où ça s'appelle autrement, avec des vachettes ou avec des animaux, c'est la même logique que les animaux dans les cirques. Toutes les associations de protection animale sont contre parce que ça ne correspond pas aux besoins ou à une vie tolérable une vie pour l'animal.
Pour un animal. Une vache.
Oui, enfin, le cirque, c'est pas pareil quand même. Les animaux sont enfermés, sont parfois battus. Enfin, il y a eu des reportages là qui démontrent, si vous voulez, la problématique. Et là, je peux vous rejoindre sur cette ligne-là. Mais la vachette d'Interville, la vachette, elle est dans les prés, elle vient, elle met deux, trois coups de cornes, mais elles sont protégées, je sais pas, elles sont boulées, à des gens, et voilà, quoi, je veux dire, quel est le problème?
Le problème, c'est un spectacle, et que l'animal, qui est en plus un herbivore et qui ne demande rien que...
Mais le fait qu'il soit herbivore, ça change par rapport... Parce que
les herbivores dans la nature sont des proies. Ce n'est pas des prédateurs, c'est des proies. Donc à partir du moment où ils sont dans un milieu, sauf si on les élève spécialement pour leur agressivité, à partir du moment où ils sont dans un milieu où ils sont dans une situation de nouveauté, dans une situation de stress, c'est une situation de maltraitance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le code rural et c'est le code pénal qui dit que la maltraitance correspond à plusieurs actes.
Vous n'avez pas l'impression que dans cette filière, on va aller jusqu'à interdire l'équitation, par exemple? Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde de l'équitation qui disent on va nous interdire
Ce sont justement des lobbies et des lobbies taurins qui ont intérêt à étendre le débat sur des terrains qui n'existent pas. C'est-à-dire que que se passe-t-il si on interdit les courses de taureaux, si l'on interdit la corrida? Essayons de mettre avec nous, contre les défenseurs des animaux, des gens qui manifestement n'ont rien à craindre parce qu'il n'y a... On n'est pas du tout sur le même terrain, on n'est pas du tout sur la maltraitance, mais si on fait un amalgame entre tous les animaux et toutes les activités,
c'est-à-dire d'interdire
on
tout,
a davantage tout... de chances de faire un petit peu plus de bruit, un petit peu plus de lobby. Là, on est effectivement sur les activités taurines. Je dis ce que j'ai dit en commençant, c'est un combat d'arrière-garde. Il y a de moins en moins de gens qui s'y intéressent. La SPA a fait l'an dernier un appel à témoins sur Internet. Ouais. En 4 jours, nous avons eu 100 000 personnes qui ont rejoint notre site pour dire qu'ils étaient contre les activités taurines en général.
Taurine en général, mais c'est vrai que M. Proust faisait la différence entre la corrida et là... C'est le gendarme qui va parler d'une
différence pénale, c'est que dans un cas, c'est une infraction...
Il y a une mise à mort et on tue un animal, et dans l'autre...
délictuelle, et dans l'autre cas, c'est une contravention.
C'est pas exactement
la même chose. L'impression que vous utilisez les vachettes dans Interville, le dossier des vachettes dans Interville, pour faire avancer votre combat contre la corrida.
Parce qu'on
voit bien que c'est différent quand même.
Non, c'est pas différent. C'est le même regard du public vers quelque chose qui n'est qu'un spectacle. Mettons en scène un animal.
Attendez, monsieur, la filière des courses camarières, c'est une filière sportive, reconnue par le ministère des Sports.
Mais parce qu'on s'appuie justement sur cette exception, mais qui est une exception, pas du ministère des Sports, qui est une exception de droit pénal, qui permet les courses de taureaux. C'est pas moi qui le dis, c'est le législateur, dans les 11 départements taurins. C'est tout, c'est-à-dire qu'on ne joue que sur cette dérogation légale. La course de taureau, en ce qu'elle met d'une façon tout à fait similaire, au moins pour le grand public, en scène un animal qui est une vachette ou qui est un taureau, c'est-à-dire qui est un bovidé, dans une situation de spectacle, est une situation qui, je dirais par essence, ne peut que choquer les gens qui font de la protection animale.
C'est ce que je disais en commençant. Après, il y a des gens comme Nagui qui décident qu'on tourne la page.
Et nous voulons que cette disposition législative qui date de 1951 évolue, parce qu'on disait tout à l'heure avec les courses de Guy Lux et de Simone Garnier, depuis 1951, les choses...
Vous croyez que le grand public comprend ça?
Vous pensez que c'est une évolution,
54% des habitants de Nîmes sont contre les activités.
Mais vous recentrez toujours on vous interroge sur les vachettes, vous me reparlez de la corrida, ça n'a rien à voir.
La question de monsieur, c'est de savoir
vous me reparlez des 54%, et encore, je vous dis, sur 6 candidats à la mairie de Nîmes, il n'y en a aucun qui est contre la corrida. C'est bien qu'il y a un problème.
Ça va être les municipales.
Monsieur Fauss, une question, vous dites personne ne peut prouver la maltraitance sur les vachettes. On peut imaginer
le stress. Des gens comme Simone Garnier et autres. Et on avait vu des reportages, vous savez, c'était des reines. Elles étaient, choyées.
Mais pendant, c'est-à-dire, on peut imaginer le stress d'un animal au milieu d'une arène avec les gens qui hurlent, des gens qui courent autour d'elle. C'est pas un état normal pour un animal de se retrouver dans cette position-là.
Moi je veux bien, mais
après quand on les passe à l'abattoir pour les manger, c'est
oui,
pas non plus
non, mais
formidable.
Ouais, mais il y a une logique, qui est la logique de la nécessité.
Je rejoins, mais alors attendez, est-ce que vous avez vu les chevaux de course quand ils arrivent au bout d'une course? Non mais soyez allons jusqu'au bout parce
non,
que
non mais
mais attendez.
On
arrive des animaux de cirque à la tauromachie, aux vachettes d'Interville, aux cochons.
Monsieur parle de l'abattoir et des animaux lorsque l'on les conduit à l'abattoir pour la boucherie. Il y a quelque chose sur lequel il faut réfléchir. L'état de nécessité. On est vegan, on est végétarien, moi c'est pas mon cas, et toutes les opinions sont respectables, elles n'engagent que les personnes. On a le droit de manger de la viande pour se nourrir, on est dans une logique de nécessité, c'est-à-dire qu'on fait les choses le moins mal possible. Là, on est dans une logique de spectacle. A-t-on besoin, pour un spectacle, ça s'appelle l'interview, ça s'appelle Jeux sans frontières, ça s'appelle comme on veut, a-t-on besoin d'infliger une maltraitance animale, on est tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il y a pire en termes de maltraitance animale, pour quelque chose qui n'est qu'un spectacle pour amuser des gens. C'est ça ma question, et c'est là-dessus que me paraît être le débat essentiel.
Franck Prost, vous avez interpellé le CSA ?
Non, pas du tout. Mais je trouve ce débat tellement ridicule que franchement, d'ailleurs, je ne comprends pas l'ampleur que ce problème...
Vous voyez, c'est que effectivement,
les gens réagissent, et les villes vont réagir. Beaucoup de limates à M. Nagui pour faire Interville sans vachette.
Eh bien écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci à tous les trois en tout cas. Merci d'être passé ce matin sur Sud Radio. On se retrouve nous dans quelques instants pour commenter l'actualité.